Marcel Cartman avait 18 ans en 1950.
Médecin réputé et artiste reconnu, Marcel Cartman retrace sa vie de fils d'immigrés polonais réfugiés à Paris dans une autobiographie passionnante. La guerre, les privations, mais aussi l'ouverture au monde extérieur, des études de médecine, service militaire, puis un mariage. Il débarque à Manosque en 1963. Forcé d'arrêter de travailler en 1988, il se consacre à l'art sous bien des formes. C'est un jeune homme de 87 ans que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Et en plus, c'est son anniversaire. Bon anniversaire, Marcel. On va parler avec vous de ce livre qui est paru aux éditions Edilivres, où on voit un jeune homme qui marche. Tiens, il y a déjà une expression qui appelle à la réflexion. Un jeune homme qui marche, et c'est vous, à 18 ans, en 1950. Pourquoi avoir écrit ce livre, qui est une autobiographie, Marcel ?
J'ai écrit parce que un jour, un de mes petits-fils, Ludovic en l'occurrence, qui avait 6 ans, m'a demandé, dis papé, comment c'était quand tu avais mon âge ?
Et donc je lui raconte, et ma belle-fille qui entend ça me dit, il faut absolument que tu l'écrives, parce que c'est tellement différent de ce qu'on imagine que je me suis mis à écrire. Et je l'ai écrit sous une forme un peu particulière, et c'est le premier bouquin que j'ai écrit, pas celui-ci, qui s'appelait « Moi aussi, je me souviens », à la manière de Georges Perec. Donc j'ai écrit. Il se trouve que ce récit a plu, et je me suis... Comment dire ? Non, c'est pas moi. C'est ma compagne qui m'a dit « Il faudrait que tu écrives un vrai livre ». Donc j'ai écrit maintenant 18 ans en 1950.
Alors c'est toute votre vie, Marcel, et puis en même temps, c'est aussi la vie d'un pays particulier qui vous a accueilli et pour lequel vous avez, quelque part un amour immodéré, c'est la France.
Oui, oui. Il faut imaginer que j'étais fils d'émigrés, pas pauvre, mais misérable, que je vivais dans un quartier pauvre où tout le monde était misérable. On a du mal à imaginer aujourd'hui que le Français mangeait 800 grammes de pain et rien d'autre. Rien d'autre. Les jours de fête, c'était du fromage de tête, parce qu'il y avait des tripiers qui faisaient ce truc, une salade de museau. Le poulet, c'était rarissime. Le poulet, on le portait à la boulangerie ou on le mettait au four après la cuisson du pain. Donc c'était un monde misérable où tout le monde était, je dirais pas joyeux, mais il y avait une vraie cohésion. Il n'y avait pas d'arabes, il n'y avait pas de juifs, il n'y avait pas de catholiques, il y avait des Français de souche. Point final.
Des Français de souche, certes, mais vous-même et votre famille, vous êtes issus de parents immigrés polonais qui fuient la Pologne pour aller d'abord en Allemagne, puis ensuite en France. En Allemagne, où naîtra votre frère aîné, Fred, et puis ensuite à Paris, en France, avec peut-être l'idée aussi de rejoindre les États-Unis, c'est ça ?
C'était un projet familial, mais il y avait à New York un très vague parent, et ça n'a pas été dit explicitement, mais ce parent recevait les émigrés pauvres, prenaient le passeport et les faisaient travailler 3-4 ans gratuitement. Donc cette idée, elle n'a pas plu beaucoup à mon père, parce qu'à l'époque, c'était l'homme qui décidait. Mon œil, oui, la femme aussi, mais enfin bref, en apparence, c'était le père. Et on s'est installé à Paris, non pas rue des Rosiers, comme le faisaient tous les émigrés, mais dans un quartier où il n'y avait que des Français. En gros, vaguement catholique, hein. Les couples n'étaient pas mariés, ils étaient à la colle, comme on disait à l'époque. Ils se sont mariés au moment de la mobilisation générale en 1939, au cas où, pour que les veuves touchent une pension.
Alors ce sont les années 30, ces années particulières en Europe. Si votre famille est venue en France, et d'abord en Allemagne, c'est pas par tourisme, c'est parce qu'elle a vécu des actes racistes en Pologne. Et votre père et votre mère voulaient fuir ça.
Oui et non. Ils voulaient fuir la misère parce qu'on a peu d'idées de ce qu'était la vie des marginaux, puisqu'ils étaient marginaux en Pologne. Toute la famille de mon père et de ma mère a disparu, tuée pas par des actes racistes, bien sûr, par la misère qui était due à du racisme, mais ils sont morts de typhus, de tuberculose, d'insuffisance cardiaque. Enfin, il n'y avait pas besoin de les envoyer au four crématoire, hein. Ils mouraient tout seuls. Donc c'était un peu pour fuir tout ça. Il ne restait dans la famille de mes deux parents qu'une sœur de mon père qui avait fui, on ne sait pas comment, on ne sait pas où, qui était la tante mythique. Voilà. Il y avait une tante comme ça qui existait.
Vous vous retrouvez en France donc dans les années, fin des années, début des années 30, pardon. Mmh. Vous-même, vous naissez un 4 mars 1932. Vous avez donc aujourd'hui 87 ans, c'est pas un mystère et c'est mathématique. Vous avez vécu toute cette période très particulière en France avant et pendant et après la guerre, en découvrant beaucoup de choses différentes, ce pays qui vous accueillait, mais en même temps, votre famille et votre grand-père était lui un rabbin juif, ce que n'était pas votre père, et ce que ne voulait surtout pas inculquer à ses enfants votre père. Autrement dit, la religion vous était pratiquement étrangère.
Oui, mais c'était, avant la guerre, c'était une obligation. On a un peu tendance à oublier que les instituteurs, les hussards noirs de la République, bouffaient du curé matin, midi et soir. Que la langue maternelle de naissance était interdite. C'est à tel point que ma défunte épouse, qui était corse, émigrée de l'intérieur, il était interdit de parler corse. Ses parents parlaient corse quand ils s'engueulaient pour que les enfants ne comprennent pas, les miens aussi. Les miens parlaient yiddish pour qu'on ne comprenne pas, mais c'était interdit. Donc, il fallait parler français, écrire français, manger français. C'était tout simple. C'était pas facile, mais c'était simple. Il y avait les bons, il y avait les méchants, il y avait ceux qu'on aime, il y avait ceux qu'on déteste, il y a le petit groupe, voilà, non, c'était simplissime.
On suit un enfant donc qui est né à Paris avec son frère aîné qui lui est né à Berlin, Fred, et avant que n'arrive Henri, votre troisième frère, et puis votre sœur aussi qui viendra plus tard, on vous suit dans cette vie parisienne très particulière. Vous allez à l'école des hussards noirs de la République, vous êtes inculqué des valeurs de la République également, vous êtes intégré, et en même temps vous découvrez tout simplement ce qu'on découvre à cet âge-là, avec votre frère Fred, d'ailleurs il y a une scène qui est magnifique, c'est vous découvrez une espèce de tissu très particulier, avec deux globes spéciaux, vous ne savez pas ce que c'est très exactement, alors racontez-nous.
Ah oui, c'est un épisode, on avait au rez-de-chaussée une vague concierge qui était femme de ménage au cinématographe. Je dis cinématographe, c'était la salle Gaumont, rue de la Chapelle. Et elle mettait dans un tiroir tous les objets bizarres qu'elle retrouvait. Elle trouvait des peignes, elle trouvait des épingles à cheveux. Elle trouvait... Et puis un espèce de truc bizarre, qui est une espèce de ceinture avec deux globes en tissu. Et on prend ça avec Fred, on le regarde, qu'est-ce que c'est ? Et Margot, qui était cette concierge, nous dit, mais vous savez pas ce que c'est ? Ben non, on sait pas ce que c'est, à quoi ça sert ? Elle dit, ben enfin, c'est pour les femmes, c'est pour mettre les seins, nous. C'est pour les cacher ? Non, non, c'est pour les empêcher de tomber. Alors nous, je sais pas si vous imaginez, dans la tête d'un enfant, parce que les seins, ça tombe. Et finalement, mais votre mère en a pas, on n'a jamais vu. Car on a du mal à penser que la nudité était quasiment interdite. C'était pas pensable. Je n'ai jamais vu ma mère déshabillée. Jamais. Alors que maintenant, on montre son cul avec une facilité assez étonnante.
Et plus les soutiens-gorge.
Les soutiens-gorge n'existent plus. Enfin, c'est...
Alors Marcel, je vais lire un extrait de votre livre, un extrait que j'ai choisi, qui est particulier, et puis on en parle tout de suite après, parce qu'il y a aussi l'émergence de la personnalité qui se nourrit de scènes très spéciales, et vous allez voir cette scène qui est particulière, le 28 août 1944. De bon matin, deux militaires allemands passent devant notre maison. Chacun pousse un vélo lourdement chargé de ce qui nous semble être une mitrailleuse démontée. Le plus jeune court presque, le plus vieux n'arrête pas de dire « langsam », ce qui signifie « moins vite ». Puis un impressionnant et long silence s'installe au bout duquel apparaît une étrange voiture décapotable avec 4 militaires à son bord, dont un grand noir. Je me précipite pour les saluer car je savais qu'il n'y avait pas de soldats de couleur dans l'armée allemande. Le jour de la libération surgissent, comme par enchantement, des jeunes gens portant un brassard arborant l'inscription FFI, Force Française de l'Intérieur, sans doute brodée le matin même. Beaucoup ne font pas partie des FFI, ou alors de fraîche date. Je le sais, car le soir où l'on fête la libération, le chef du réseau, celui-là même qui m'avait emmené à Paris, refuse de se rendre aux festivités. Je lui demande pourquoi, il me répond « Il y a des petits cons qui ont pris la place, moi, j'ai fini de me battre. » Ce sont les mêmes petits cons qui ont saisi Rachel. Je l'appelle Rachel parce que je ne me souviens pas de son nom. L'ai-je jamais su? C'était une pute à boche. Pour nous rendre à l'école, nous passions devant chez elle. Parfois, elle nous donnait du chocolat suisse enveloppé dans du papier d'étain que nous apportions à un homme qui avait fabriqué des figurines. Ces résistants de la dernière heure ont tondu Rachel, l'ont roulé dans le goudron et dans les plumes et l'ont promené nue sur une charrette à travers le village. C'était la première fois que je voyais une femme nue. Je me suis revu, rentrant de Saint-Nazaire, tondu comme elle. J'ai pleuré durant 2 jours. Rachel s'est débarrassée des plumes et du goudron. J'ai appris à cette occasion comment procéder. Il faut utiliser un corps gras, le beurre faisant parfaitement l'affaire. En d'autres temps, cela servira lors des marées noires. Les cheveux de Rachel ont repoussé. Elle a repris son commerce, cette fois de façon patriotique, uniquement avec les alliés. Mais nous n'avons plus jamais eu droit à du chocolat, ni à un sourire, ni même à un bonjour. C'est un passage très émouvant. Ouais, Marcel, ouais, parce que effectivement, on sent la bêtise, on sent la cruauté, et on sent un enfant innocent qui est confronté à cette bêtise, à ce moment précis.
Oui, ce jour-là, j'ai appris une chose importante. L'homme est un animal dangereux. Il est capable du pire comme du meilleur. Ça peut être François d'Assise, ça peut être l'abbé Pierre. Ça peut être Hitler. Et c'est le même homme. Et cette leçon-là, elle est dure à avaler hein, quand on a 12 ans. Et j'ai appris une chose quand même à ce moment-là, c'est l'indulgence. Cette pauvre femme, car elle était pauvre, a été martyrisée et ces imbéciles ne se sont pas rendus compte.
Ces petits cons.
Ne se sont pas rendus compte qu'ils martyrisaient un être humain. C'est ça qui est une leçon qui me semble importante.
Ça vous a marqué pour toute la vie d'ailleurs, parce qu'après, il y a ce rapport peut-être au corps humain qui a fait de vous un médecin, et aussi à l'injustice, à la méchanceté, à la brutalité. Je vais lire un petit passage plus sympathique de votre livre pour détendre un petit peu l'atmosphère et pour voir votre esprit caustique aussi. Ça concerne la 5e colonne. Alors ça aussi, c'était très célèbre. C'est Marcel Cartman qui le dit. Donc en 1939, les autorités françaises avaient une hantise, les espions allemands. Ces envahisseurs souterrains formaient, pensait-elle, la 5e colonne. Et vous ajoutez, je ne sais pas qui étaient les 4 premières colonnes. Là aussi, on sent à la fois l'innocence et puis l'esprit qui vous anime.
Oui, mais ça a l'air de rien. Mais
les murs ont des oreilles, hein, c'est ça.
J'ai appris une grande leçon. C'est que les autorités ne disent pas que des vérités. Les murs ont des oreilles, ça me semblait poétique, amusant, intéressant. Les murs ont des oreilles. Non. Méfiez-vous, l'ennemi est là. Et quel ennemi? Mais c'est ça qui, moi, m'a sidéré. On s'est battu. D'ailleurs, je vais faire une lecture que j'intitule « Mes guerres inutiles ». On s'est battu comme des sauvages pendant des générations. Les boches, les sales boches, sont devenus nos amis allemands. Étonnant, non? Donc pourquoi on a fait la guerre? Quand moi j'ai été faire le Gugus en Algérie, le vote, les accords d'Évian étaient déjà signés. Le vote de la France avait dit qu'il décide. Et pourquoi j'y ai été? Pourquoi on m'a envoyé là-bas? Comment voulez-vous penser sainement quand à un moment, entre 40 et 44, l'envahisseur, c'était le méchant, le terroriste, c'était le gentil, et qu'entre 54 et 62, l'envahisseur, c'était le gentil, et le terroriste, c'est le méchant.
Tout est renversé.
Comment vous faites pour accorder ces deux données incontestables? Comment vous faites? C'est pas facile, hein. Et vous apercevez que la vie humaine est hasardeuse, étonnante.
Entre-temps, donc, le petit garçon, mais au même temps, le jeune homme qui a fait son service militaire en Algérie pendant cette période trouble, devient médecin. Il épouse une manosquine, entre guillemets, et vient s'installer à Manosque. Il est médecin-chef à un centre de soins ici à Manosque, qu'il a aidé à cofonder d'ailleurs et à mettre sur les fonds baptismaux. Enfin bref, c'est de la médecine sociale qui vous anime. Et puis en 88, un petit accident, quelque chose au niveau du cœur, à gauche, et qui vous interdit à un moment de reprendre l'activité. Et là, C'est la naissance d'un artiste, d'un créateur, et tout d'un coup de se dire ben, j'ai envie de peindre, j'ai envie de photographier, j'ai envie de sculpter, j'ai envie une envie débordante que vous avez encore toujours aujourd'hui, Marcel.
Petit ajustement. En 1943, au collège de Pontoise, il y avait un professeur de dessin. Le collège de Pontoise avait cet avantage énorme, de la 7e à la terminale, on avait le même prof. 7e, c'était avant l'examen d'entrée en 6e. Et que ce prof de dessin, à l'époque, nous a fait faire de la sculpture sur bois, ce qui est impensable aujourd'hui. La première année, il nous fait dessiner le crâne de Voltaire enfant, et l'année suivante, le crâne de Voltaire adulte.
Et il a grandi très vite.
Devant notre étonnement, et mais comment ça se fait? Il dit, mais il s'est passé un an, il est devenu adulte.
Oui.
Et j'ai eu ce prof tout au long. Donc tout au long de mes études secondaires, un peu chaotiques, j'ai fait du dessin, de la peinture, de la sculpture. On faisait les décors pour la fête du collège, car les grands, ceux de terminale, jouaient une pièce de théâtre. Ils ont joué l'Antigone d'Anouilh en 47, quand même. C'est pas de la rigolade, hein, c'est du sérieux. Et nous, les petits, ben, on peignait les décors, et là aussi, des émotions absolument incroyables. On, par terre, on a de la toile, avec des pinceaux improbables, des balais à chiottes, des peintures inconnues. On barbouille tout ça, et puis le jour de la représentation, on redresse, et putain, c'est un temple grec. Là, ce sont des émotions esthétiques qui vous font réfléchir. Je peux faire ça. Et donc, tout au long de ma vie, j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai peint, j'ai dessiné. Moi, ma première expo, je l'ai fait en 62. Donc, c'est un truc qui traînait. La première expo de photos avec Alain Gualina et Henri, c'est 69. Donc, on a tout. Et Henri et moi, on avait le même laboratoire, parce que j'avais un laboratoire, on faisait les photos ensemble. Donc on faisait de la médecine, lui de la dentisterie, et on faisait de la photo, et on faisait des expos, et on faisait tout un tas de choses. Et donc quand je me suis arrêté, j'ai arrêté la médecine, parce que j'en avais fait le tour d'abord, puis parce que j'étais un peu fatigué quand même. Donc effectivement, je me suis remis, c'est-à-dire à temps plein, à la peinture, la sculpture, la photo. Et puis, comme Fred avait un local qui était inutilisé, on a fait une galerie. Non, c'était un rêve extraordinaire.
Et on a vécu de beaux moments dans cette galerie.
On a eu des émotions absolument extraordinaires. On a fait de la musique, du jazz, de la musique iranienne.
Parlons-en de la musique, parce que justement, dans votre jeunesse, vous avez vécu des vibrations particulières à Paris, notamment, et où vous avez côtoyé, on va dire en gros, Sacha Distel, Raymond Devos, enfin des tas de gens comme ça, que vous avez eu la chance de voir sur scène. Et puis un jour, au bord de la plage, vous voyez un gars qui promène son chien. Et vous discutez un petit peu avec lui, et quelques temps après, vous vous rendez compte que c'était quelqu'un d'assez connu.
Oui, c'était Léo Ferret, j'étais à Lokirek, en Bretagne, et qui, lui, avait résidé au château du Taureau. Effectivement, c'était une époque impensable aujourd'hui. Moi, je rencontre un type avec une vieille voiture au quartier latin. J'ai une vieille voiture et on discute de vieilles voitures. On discute de la difficulté d'avoir des pneus. Et il m'explique qu'il il est ingénieur centralien et qu'il a déposé un brevet pendant l'occupation sur les roues à diamètre variable suivant l'arrivage des pneus. Et quand je vois rentrer dans ce magasin de Alain Vian, appareil musique automatique, je me dis c'est l'ingénieux ingénieur, c'est peut-être Boris Vian. Je discute avec Jean-Paul Sartre, bon, dans ce café mythique, non pas de philosophie, non pas de choses intellectuelles, du prix et de la qualité médiocre du café. C'est de ça qu'on discute
avec lui.
La vie,
quoi.
La vie, quoi. Je rencontre Bernard-Henri Lévy à Saint-Paul-de-Vence. Je m'approche pour lui adresser la parole. Il me tourne le dos, il se tourne vers sa femme. Il dit, on ne peut pas sortir sans être importuné.
La vie change.
Le comportement des soi-disant philosophes a changé. Voilà, oui. Alors, il y a des avantages quand même aujourd'hui, hein.
Alors, vous l'avez compris, c'est un livre attachant, c'est un personnage attachant qui n'a pas sa langue dans la poche et qui, bientôt d'ailleurs, Marcel, vous avez une signature et vous avez une soirée prévue à Manosque.
Oui, le 15 mars, le 15 de ce mois, chez le bouquiniste, là, au goût des livres, deux places de l'Hôtel de Ville à Manosque, le 15 à 20h30, je ferai une lecture et une dédicace pour ceux qui voudront. Ce livre.
Et puis on pourra parler avec vous aussi bien de musique comme de sculpture, par exemple ce jeune homme qui marche, évidemment c'était un clin d'œil à Giacometti. Vous avez une grande admiration pour ce sculpteur, hein.
Oui, elle est double. D'abord, son œuvre est absolument ahurissante, très décalée par rapport au reste. Il a fait de la sculpture très, très classique, si je puis dire, et puis il a changé et il a cherché. Et puis j'aime bien l'homme, parce que quand on lui demande pourquoi vous sculptez, il dit je sais, parce que je sais pas. Et le jour où vous saurez, ben je ferai autre chose, parce que quand on sait, c'est plus drôle.
En tout cas, moi, je sais une chose, c'est que c'est un livre passionnant parce qu'on plonge dans l'histoire d'un homme qu'on apprécie, certes, mais en même temps dans l'histoire d'un pays, et ça remue beaucoup de choses. Et c'est un livre dont on sort un petit peu chamboulé et en même temps plus intelligent, quelque part. Et ça fait du bien. 18 ans en 1950, c'est Marcel Jean Cartman. C'est aux éditions Eddie Livre. Voilà, c'est sur cette belle parole qu'on va finir. Merci encore, Marcel, d'avoir été mon invité. C'est toujours un plaisir et un bonheur de parler avec vous. C'est la fin du journal. Merci James aussi pour la régie. Demain, nous parlerons du dépistage de la maladie rénale. Rafat Boustany, qui est médecin néphrologue et le directeur du centre d'hémodialyse du 04, Philippe Auvray, seront nos invités. Nous suivrons aussi la députée Fontaine Domézel. Elle est allée parler droits des femmes et action sociale au CIDFF à Manosque. Et nous verrons aussi que des ateliers numériques démarrent à Digne. Un beau journal demain en perspective. Merci James, bonne journée à tous et à bientôt.
Merci François, et pour l'anniversaire de mon ami aussi, je fais une petite dédicace à un poème de Lucien Jacques qui te va si bien. Tu nous as vraiment touchés par tes écrits et par ta présence, ta jolie présence. Je crois en l'homme, cette ordure, je crois en l'homme, ce fumier, ce sable mouvant, cette eau morte. Je crois en l'homme, ce tordu, cette vessie de vanité. Je crois en l'homme, cette pommade, ce gros lot. Cette plume au vent, ce boute-feu, ce fouille-merde, je crois en l'homme, ce lèche-sang. Malgré tout ce qu'il a pu faire, de mortel et d'irréparable, je crois en lui, pour la sûreté de sa main, pour son goût de la liberté, pour le jeu de sa fantaisie, pour son vertige devant l'étoile. Je crois en lui, pour le sel de son amitié, pour l'eau de ses yeux, pour son rire, pour son élan et ses faiblesses. Je crois à tout jamais en lui, pour une main qui s'est tendue, pour un regard qui s'est offert, et puis, surtout et avant tout, pour le simple accueil d'un berger. Bon anniversaire, Marcel.
Merci, merci.